nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelle que soit la culture à laquelle on appartienne, quelle que soit l'époque, depuis la communauté la plus barbare qui soit jusqu'à nos sociétés faussement policées, il n'est aucun homme que le spectacle du sang laisse indifférent. Le sang profondément émeut n'importe quelle personne humaine. La plupart du temps, le sang effraie. Depuis la toute petite goutte de sang que l'enfant voit perler sur son égratignure, jusqu'à ses accidents de la route trop fréquents, et jusqu'à même ces poches de sang que nous voyons lorsque nous allons visiter des proches à l'hôpital, il faut bien le dire, le sang nous répugne. Et pour certains d'entre nous, enfin j'espère pas dans cette chapelle, le sang parfois a l'effet inverse puisqu'il galvanise, il excite des passions un peu étranges et profondes de l'être humain. Hein, c'est le cas, enfin c'était le cas dans les arènes romaines, vous savez combien la foule était excitée par le sang qui coulait par litres de ces gladiateurs, de ces chers chrétiens qui sont morts martyrs, ou au cours d'une guerre, eh bien, lorsque des hommes voient leurs camarades tomber et le sang perler de son front, de son corps, ils sont comme poussés à la vengeance et à la vengeance immédiate. La loi du talion, sang pour sang. C'est très étrange que notre époque, qui est faussement indifférente à tout, demeure bien humaine sur ce plan, c'est-à-dire bien, alors en dépit de son cynisme, bien sensible au sang. Il parle partout de don du sang, on parle partout de ce sang qui coule. J'ai vu encore tout à l'heure des affiches publicitaires en passant par le métro, et voilà, on attire, on choque l'attention des gens faisant des publicités pour la conduite, je ne sais quoi, la sécurité routière, etc., en mettant du sang un peu partout, et notre contemporain, tout blasé qu'il est choqué toujours par le sang. Pourquoi le sang intrigue-t-il la personne humaine? Évidemment, parce que nous sentons tous que le sang est une réalité capitale. Je n'ai aucune prétention en matière de médecine, pas plus que la plupart d'entre vous, mais nous savons tous, parce que c'est du bon sens et que nous avons fait un tout petit peu de cours de biologie, nous savons tous que le sang est cette espèce d'éléments de circulation, de transport, qui permet de véhiculer les meilleures choses depuis les poumons jusque dans les organes de notre corps et depuis l'organisme digestif jusqu'à nos orteils et au bout de nos cheveux. Voilà donc le sang qui est très important. Il n'est donc pas étonnant que les religions primitives aient toujours considéré que si l'être humain voulait se concilier le ciel, si l'être humain voulait se concilier les divinités, ou la divinité, eh bien, il fallait que l'on offre à la divinité du sang, et du sang humain. Parce que le sang humain est ce qu'il y a de plus précieux pour nous, et que par anthropomorphisme, on en déduit également que le sang est quelque chose vraiment qui est très précieux aux yeux de la divinité. Vous voyez, ce sang, donc, a toujours été un nœud, un point crucial au plan des relations entre le ciel et la terre. Nous fêtons aujourd'hui la solennité du précieux sang de notre Seigneur, et je crois que nous ne pouvons pas esquiver cette question fondamentale. Pourquoi le Père éternel a-t-il voulu, a-t-il permis, a-t-il exigé que son Fils livre son sang, et qu'il livre son sang jusqu'à la dernière goutte? Si nous ne sommes pas profondément heurtés par cette question, c'est que nous n'avons pas encore complètement compris le réalisme de l'incarnation. Nous ne pouvons pas être indifférents à cette question. Trop habitués au spectacle du crucifix, nous sommes blasés, nous sommes ankylosés par cette vision du Christ en croix. Mais mes frères, pourquoi le Père éternel, nous osons répondre à cette question? Parce qu'on nous la pose, voyez-vous. Et je pense qu'on vous l'a déjà posé, les païens vous la posent. Qu'adorez-vous à un Dieu qui livre son Fils en croix, un Fils qui laisse la totalité de son sang s'écouler? Qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Et vous nous parlez d'un Dieu d'amour. Est-ce qu'il s'agit d'un Dieu qui, en justicier très étroit, exigeait que la loi du talion soit respectée et que nous payions, nous qui l'avions gravement offensé, du prix de notre sang? Cette idée, elle a couru dans le judaïsme primitif, cette idée, elle a couru dans la réforme catholique, mais elle a également couru chez un certain nombre de théologiens catholiques. On a l'image d'un Dieu courroucé que seule une bonne effusion de sang de la part de ses créatures pourrait calmer. J'en parlais avec le groupe de catéchisme dont je m'occupais jusqu'à maintenant tous les lundis à Paris, avec les étudiants et les jeunes professionnels, et je leur disais, mais n'avez-vous jamais lu dans le Dies Irae, n'avez-vous jamais lu dans le Milieu chrétien quelques passages qui tintaient à vos oreilles? Il y a un peu de cela, de ce Dieu-là qui est un Dieu vengeur. Et nous n'avons pas toujours prêté attention à ce que cette conception des choses, un Dieu vengeur qui exige que le sang soit versé parce qu'une offense grave a été faite, un Dieu courroucé, un Dieu aveugle, un Dieu qui veut que du sang coule parce qu'ainsi il sera apaisé, ben cette conception des choses est très proche des divinités primitives. Nous ne sommes pas très loin de ce que je viens de vous décrire un peu plus haut, de ces religions aztèques, mayas, où on faisait, peut-être avez-vous vu ce film de Mel Gibson, Apocalypto, le terme est bien choisi. C'est redoutable de voir ces cœurs humains qu'on offrait en permanence, de sorte qu'une fois l'éclipse de lune passée, ou de soleil passé, on se disait, voilà, enfin la divinité est apaisée, pour combien de temps, nous le savons, mais vous voyez cette relation fébrile de l'homme à la divinité, et cette conception atroce de la divinité, il faut bien le dire. Est-ce qu'on croit, et atroce et en même temps tout à fait infantile, est-ce qu'on peut acheter Dieu avec quelques litres de sang, comme on achète une horde de mercenaires avec quelques litrons de mauvais alcool? Est-ce qu'on achète ce Dieu, est-ce qu'on croit que le Père éternel, qui est pourtant totalement amoureux de son Fils, est-ce qu'on croit qu'il serait apaisé de voir ce Fils exempt de tout péché verser son sang au prétoire, verser son sang en croix et jusqu'après sa mort? Je crois qu'il faut être sérieux. Ce vengeur-là, ce Dieu-là, dont, encore une fois, le catholicisme n'a pas toujours été exempt, et dont il n'est toujours pas exempt totalement aujourd'hui, parce que nous nous fabriquons des idoles, des représentations totalement anthropomorphiques de Dieu, il s'agit en fait, je crois qu'il faut quand même le dénoncer, d'un vampire. Ce Dieu-là est quand même un peu étrange. Vous voyez, c'est, n'est-ce pas là, la projection un peu désordonnée de notre propre mauvaise conscience. Nous avons mauvaise conscience du péché, des offenses que nous faisons au ciel, et nous avons raison. Mais cette image que nous tirons en conséquence de ce Dieu que nous pourrions acheter avec quelques litres de sang, le sang de son Fils, et qui serait apaisé dans sa colère, parce qu'en justicier aveugle, il aurait voulu que la foudre tombe n'importe où, fût-ce sur son Fils, cette conception n'a pas grand-chose à voir avec le Dieu qu'on nous décrit dès l'Ancien Testament, mais a fortiori dans le Nouveau Testament. Je parle de l'épître de Saint Jean, Dieu est amour. Dieu est miséricorde en permanence. Dans les psaumes, on nous présente une vision de Dieu qui n'a rien à voir avec cela. Vous voyez ? Je pose à nouveau la question, donc, pourquoi le Père éternel, s'il est bon, s'il ne correspond pas à cette image-là que je dénonce de Dieu, pourquoi est-ce qu'il a permis, pourquoi est-ce qu'il a voulu que son Fils verse jusqu'à la dernière goutte de son sang ? En d'autres termes, pourquoi convenait-il que Jésus meure et qu'il meure d'une mort violente ? Question étrange. L'homme avait péché, je vais essayer d'expliquer un peu les choses avec les explications de saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas trop sot, donc on peut s'appuyer fermement sur lui. L'homme avait péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est cette double offense à Dieu, dont on refuse l'ordre, dont on refuse le fait qu'il soit le souverain de toute chose, offense à Dieu, et en même temps, nuisance à notre propre fin. Nous allons contre notre propre fin, qui est Dieu même. L'homme s'écarte, c'est aversio ad Deo, conversio ad creaturam. Je me recroqueville sur moi, créature, je refuse de me référer au ciel. C'est le geste de Lucifer, c'est celui de n'importe lequel d'entre nous, depuis Adam et Ève. Bon. Ce péché-là, Dieu ne pouvait le laisser subsister. Le désordre qu'il avait engendré avec cette créature coupée de son Dieu, Dieu n'aurait pu le laisser subsister, parce que Dieu est juste et parce que Dieu est amour. Et que cette double nuisance à Dieu et à la créature ne convenait pas. Alors Dieu a exigé réparation, mais pas comme un Dieu vengeur qui veut que le sang coule parce qu'une bêtise a été faite. Mais il a exigé réparation pour le bien de sa créature elle-même. Lui-même n'avait pas besoin que le péché soit réparé. Dieu est au-delà de tout. Dieu est absolument suffisant en lui-même. Il a voulu, pour le bien de sa créature, que la créature revienne de son péché. C'est-à-dire qu'elle se convertisse, qu'elle revienne vers son Dieu, qu'elle sorte d'elle-même. Voilà ce que Dieu voulait. Et puisque le péché venait d'un acte volontaire négatif, il fallait que cette conversion vienne d'un acte volontaire positif. Mais comme l'homme était incapable de poser cet acte-là, il a fallu que quelqu'un d'autre que lui vienne à effectuer la conversion de la personne humaine. Voyez-vous ? Et vous me direz, d'accord, nous comprenons là qu'il fallait que quelqu'un d'autre qu'un homme fasse cet acte de conversion, revienne vers Dieu et permette à la créature de sortir de son état pécamineux, de sa fange. Nous sommes d'accord. Mais pourquoi fallait-il que cet être-là s'offre de manière violente ? Jésus aurait pu claquer d'un doigt, Jésus aurait pu cligner d'un œil et nous sauver ainsi. Pourquoi a-t-il voulu s'offrir sur la croix et que son sang coule ? Mais parce que, mes chers amis, l'être humain est pas seulement composé d'un âme, d'une âme, mais il est composé d'une âme et d'un corps. Et nous savons, il faut que notre corps fasse apparaître de manière sensible, extérieure, tangible, ce que vit notre âme. Autrement dit, puisque notre âme voulait se convertir, devait se convertir, revenir à Dieu, il fallait que notre corps accompagnât la conduite de notre âme, que dans le Seigneur Jésus, son corps accomplisse ce que faisait son âme. Or, son âme, que faisait-elle ? Elle se livrait. Il fallait donc que son corps se livre. Pourquoi un sacrifice qui aille jusqu'à la mort ? Pourquoi un sacrifice aussi douloureux ? Mais parce qu'il n'y a pas de plus belle preuve de conversion, il n'y a pas de plus belle preuve d'amour de Dieu et de décentrement de soi-même que le don de sa propre vie. Jésus le dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est pourquoi le Seigneur Jésus s'est offert et s'est offert sur la croix, par un acte douloureux de son corps qui faisait transparaître ce qui se passait au fond de son âme. Voyez-vous ? C'est cette espèce de cours de théologie, j'allais dire tôt le matin, il n'est pas si tôt, mais enfin du dimanche matin, et j'en conviens, peut-être un peu déplacé, mais je crois qu'il est important de revenir vraiment au fondement des choses. Pas de se contenter de contempler, c'est très beau, mais il faut aussi rendre compte des choses. Et je ne pense pas qu'on le fasse si souvent que cela. Vous voyez, on nous parle beaucoup de transfusion sanguine. Là, c'est le début des vacances, il va y avoir le chassé-croisé entre juillet et août, enfin bref, un certain nombre de jalons que nous avons l'habitude, la tradition maintenant, de célébrer dans cette France païenne, qui a ses rites à elle. Cette transfusion sanguine, c'est très bien. Ça rend service à ceux qui auront des accidents. Très bien. Et on ne cesse de faire des campagnes de publicité pour pousser les gens à offrir leur sang. J'aimerais qu'il y ait le même genre de campagne pour qu'on pousse les Français à aller, non pas donner leur sang, mais là, consommer du sang. Celui de Jésus-Christ, le seul qui ait permis que nous revenions de nos fautes. Parce que dans son âme et dans son corps, il offrait toute l'humanité à son Père éternel. Celui qui nous a rétablis dans l'amitié. Je crois que c'est parce que Nicolas et Diane ont bien compris cela, eux qui sont catéchumènes et dont je vous parlais tout à l'heure, c'est parce qu'ils ont bien compris cela que seul le sang de Jésus-Christ pouvait nous sauver, qu'il fallait s'y baigner sans conduite complètement maladive, qu'il fallait s'y baigner, notamment s'y baigner par le baptême. Je vous ai vu très ému, chers amis, par le baptême de vos enfants, parce qu'on y plonge vos enfants dans le sang de Jésus-Christ pour laver leurs péchés et aussi pour les rendre fils adoptifs du Père. Ils ont le même sang que Jésus, d'une certaine manière, qui coule dans leurs veines. Et ils vont encore irriguer leurs veines, quand ils en auront l'âge, de l'Eucharistie, corps et sang de Jésus, pour pouvoir de plus en plus être fils adoptif du Père éternel. Mes amis, vous allez venir ici, dans une toute petite minute, pour vous présenter au Père éternel, en disant, me voici, mon Père, je veux être lavé dans le sang de votre Fils. J'ai compris ce qui s'est passé sur la croix et je veux en jouir pour de plus en plus vous appartenir, et ressembler à Jésus et être votre Fils, votre fille. Alors nous avons à cœur de bien prier pour vous pendant non seulement cette journée, mais aussi les quelques mois qui vous séparent de votre baptême, qui sont souvent semés d'embûches parce qu'il y en a un qui n'a aucun intérêt à ce que vous soyez régénérés dans le sang de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.